Bienvenue chez les Papous de France Culture pour la deuxième partie de notre récréation littéraire enregistrée en public à l'ENS de Lyon. C'était le samedi 2 avril dernier. Nous étions invités par les étudiants futurs diplômés de Normalsup, toutes disciplines confondues, philo, mathématiques, littérature, histoire, j'en passe, avec à leur tête pour l'organisation de notre venue, Adrienne, Marjolaine, Jérémy et Léonard, soutenus par une bande d'anciens de l'école qui nous avait reçus il y a presque 10 ans, épaulés par les associations Transistor, Ainsitu et le CRUS de Lyon. Dans la salle de l'Amphimério, coude à coude des étudiants, mais pas que, des Lyonnais, mais aussi des auditeurs de passage, des parents avec enfants, bref, un joyeux mélange tout public, partageant le rire et l'amour du jeu avec les mots et la culture. Notre enregistrement des Papous a duré presque 3 heures. Nous reprenons le fil de la soirée dans un léger désordre. C'est la raison pour laquelle vous entendrez deux Papous intervenir dans une séquence alors qu'ils sont à ce moment-là en train de travailler sur 10 mots pour des histoires. Incroyable, non ? À mes côtés, sur la scène de l'Amphimérieux, Patrick Beignet, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Patrice Caumont, Lucas Fournier, Gabriel Godard et Serge Joncourt. Dimanche dernier, nous avons joué avec Shakespeare, pub et roman interactif s'achevant à la pizzeria de Vérone. Nous avons joué aussi avec les bébés dans les poussettes, sur les trottoirs et le grondement de la montagne. On continue avec d'autres acrobaties littéraires pour vous faire sourire, les Papous à l'ENS, suite. Lucas Fournier et Serge Joncourt vont maintenant vous rejoindre dans la salle, oui, parce qu'on va vous faire participer au jeu des 10 mots pour des histoires. Voilà. Odile Conseil et Patrice Delbourg vont écrire ici, sur le plateau, à côté de nous, des histoires. Et c'est vous qui allez leur imposer les mots. Alors, montez, Serge, allez, tout en haut. Alors, qui a des mots ? Il faudrait des mots très contraignants, mais des beaux mots en même temps, des mots qui donnent envie de raconter, d'imaginer des histoires. Qui a un mot ? Du côté de Lucas ?
J'ai un mot.
Oui ?
Ornithorynque.
Ah bah voilà, ornithorynque, c'est contraignant, on peut pas dire le contraire. Est-ce que, alors ils ont le droit de refuser 3 mots, ce serait pas très élégant de refuser le premier, mais enfin bon, vous prenez ?
Oui.
Oui, c'est une sorte de l'inévitable.
Il est incontournable.
Oui. Un mot du côté de Serge.
Merci pour ornithorynque, merci beaucoup.
Corneguidouille.
Corneguidouille.
Corneguidouille, oh ben ça doit plaire à Delbourg, non ?
Oui, ah bah là déjà ça nous donne une époque.
Oui, ça vous va, Odile ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord.
Oh, si ça plaît à Delbourg, ça me plaît aussi.
Allez, 3e mot.
Circonvolution.
Bah, pourquoi pas, hein ?
Je suis pour.
Ils vont écrire avec, hein ? Ça vous va ?
Oui.
Patrice, vous êtes chafouin, là.
Oui, parce que là, ça retombe un peu, le soufflet.
Circonvolution, vous n'en voulez pas ?
Si.
Si, allez, si. Toujours pas de refus. Ensuite, côté Serge.
Chafouin.
Ah, mais alors, oui.
Non, je refuse, c'est trop dommage, madame.
Bah, flagorneuse.
Oui. Un autre mot côté Serge.
Didgeridoo.
Pardon ?
Didgeridoo.
Oui, oui, un ornithorynque qui joue du didgeridoo, voilà. Vous savez bien, Françoise, c'est ça. On en rencontre tous les jours.
C'est australien.
C'est facile.
C'est australien. Dites-nous, Gabriel, c'est quoi ?
C'est un long tube de bois creux dans lequel on souffle et qui fait boum, 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 boum.
Ah oui, ça a l'air bien.
Vas-y, tu fais mieux le didgeridoo.
Comment vous l'appelez ?
Didgeridoo.
Avec des jolies peintures.
Comment vous l'écrivez ?
Jean Giraudoux, c'est ça ?
Bon, vous en êtes à combien de mots ? 4 et pas de refus. Alors, Lucas.
Hypocoristique.
Pardon ?
Quoi ?
Hypocoristique.
Hypocoristique ?
Non, alors là, non, c'est
vous
non.
Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ?
Bah, c'est un diminutif qui est affectueux.
Hypocoristique. Remarquez, c'est pas mal, hein ? C'est, mais il faudrait quand même une explication plus claire, non ?
C'est un mot qui permet de montrer l'affection pour quelqu'un.
Ah, bon, ça, c'est mignon.
Ça ne me concerne pas.
Mais qui s'en...
Bon, alors, vous refusez.
Refusez.
Allez, premier refus. Désolée, mademoiselle, désolée. Alors, côté Serge, oui.
Latanier.
La tanière. Il n'y a que des mots que je ne connais pas. Je suis très inquiète.
On est à Normal Sup.
Je sais bien qu'on est à Normal Sup, mais ça s'écrit comment?
L-A-T-A-N-I-E-R.
C'est un arbre.
C'est un arbre qui produit des latans.
Oh, ben alors.
Mais oui, les latins, bien sûr.
Oui.
Oh, latanier.
Latanier, oui.
Arbor arboris féminin.
En football, on se fait latanier aussi sur la pelouse, souvent.
Vous prenez?
Bah oui, puisqu'on est...
Oui, puisque
on n'a plus que droit qu'un
puisque refus. Le jeu, c'est
deux.
De mettre
vous
en
vous pouvez encore refuser deux mots.
Latanier.
Allez, on prend. Un autre mot, Serge, de votre côté. Oui.
Kleptomane.
Oh ben voilà, oui. Ça c'est un mot.
Ça c'est bien.
Enfin,
ça,
c'est bien. Simple. Hein
non, mais j'ai demandé des mots contraignants, c'est vrai. Oh, il y a un petit garçon ou une petite fille au premier rang.
Peut-être nous donner une syllabe.
Qui veut.
Allô, allô.
Attendez, d'abord, on alterne. D'abord, un mot côté Joncourt. Oui.
Jartel.
Oh, le coquin. C'est le petit garçon qui a dit ça.
Jartel, vous prenez Jartel?
Oui.
7 et toujours un seul refus. Alors, toi?
Orthodoxe.
Orthodoxe.
En ce moment, on ne peut pas.
Oh, c'est difficile, hein, on va dire.
Ça va pourquoi nous entraîner c'était dans... Pâques.
Là, vas-y, un autre mot. Un lieu,
un
oui.
Lieu ou un nom propre.
Ribambelle, c'est pas
mal. Oh, ce serait pas mal un nom propre, quand même, oui. Ribambelle. Pour qu'il y ait un personnage.
C'est le nom d'un village, il s'appelle Pouet-Laval, dans la Drôme.
Ah, Pouet-Laval, ah ouais, c'est bien ça.
C'est à côté de Dieulefit.
Voilà, c'est ça.
Bravo. Très bien.
Wow. Ah non, Dieu le fit, on peut pas en ce moment. Ah non, non.
Le Pouet-Laval.
Vous prenez ou pas?
Oui, on le prend. Non, mais le Pouet-Laval, c'est un endroit où on joue beaucoup du didgeridoo.
Alors, on en est à 8 mots, c'est ça?
On en est à 8.
Alors, un 9e mot, peut-être un nom. Un nom de personnage.
Orglyphe.
Pardon?
Orglyphe.
C'est un nom de personnage?
Enclus.
Je suppose, oui.
C'est un homme, c'est une femme, c'est quoi?
Il y avait Zorglub, je dis.
Ah, attendez, j'ai ici.
Allez, un nom propre ici.
Cléobule.
Cléobule.
C'est la sœur de Cléopâtre.
Ça sonne bien, en tout cas, Cléobule. Vous avez le droit à un dernier refus, mais ce serait malvenu, là.
On peut refuser, Cléobule, si tu... oui. Vous bien refusez. Que c'était la sœur de Sitting Bull, mais enfin, quand même.
Bon, alors, plus de refus. Donc, Hippocrate. On n'a toujours pas de personnage. Hein,
non.
Personnage
Hippocrate.
Hippocrate.
Ah, Hippocrate.
J'ai Hippocrate,
oui.
Bah, oui, de toute façon, vous ne pouvez pas refuser, alors. Hippocrate, c'est bien.
Ah, bah, Hippocrate, c'est...
Ça se glisse un peu partout, vous savez.
Oui, oui, oui. C'est le dieu des hypochondriacs.
Alors, il en manque combien?
Un.
Le dernier mot, attention au dernier mot. Un lieu, peut-être. Non, un lieu, on a.
Moi, je proposais Asimov comme personnage.
Ah, ça, c'est pas mal, Asimov. Ah,
bon, on peut avoir deux personnes. Hein.
Asimov, Fricat.
De toute façon, vous ne pouvez plus refuser, donc Asimov. Très, très bien. Hein, bravo. Merci beaucoup. On est désolé pour Ribambelle et Orthodoxe et ceux qui ont été refusés. Hein, mais vous les gardez pour la prochaine fois, dans 10 ans, quand on reviendra. Vous aurez grandi, vous, au deuxième rang. Très bien. Alors, maintenant, j'ai inscrit des styles dans ce chapeau. Et non seulement ils ont l'obligation de glisser les mots imposés dans leurs histoires, de les imaginer à partir des mots imposés, ces histoires, mais également de les faire, de les raconter selon un certain style. Alors, honneur à Odile, quand
bien
même. Hein, vous êtes d'accord, Patrice Delbault? Vous avez le droit à un refus, Odile, pas plus. Voilà, suspense. Que tirez-vous en premier?
Style défilé de mode pour la Fashion Week.
Oh, bah.
Alors là, eh bien, ça s'impose.
Bah alors, vraiment, Hippocrate et Asimov. Hein. Vous le prenez?
Je regrette beaucoup la ribambelle, mais je prends.
D'accord.
Mais tu peux le mettre, hein, la ribambelle.
À vous, Patrice Delbourg.
Je peux en prendre.
Alors, vous avez le droit à un refus, peut-être. Comme Odile.
Style, une soirée au théâtre, assis au milieu du deuxième rang.
Toi, ça.
Oui.
Non, je suis jamais au deuxième rang.
D'accord.
Refusé.
Alors, dernière chance.
Allez, dos au mur.
Oui.
Cure de remise en forme dans une ville d'eau. Le bébé à la poussette va être content.
Allez, vous travaillez aux tables de travail. Et pendant ce temps, nous, on continue de jouer. Vous avez des casques pour vous isoler du bruit ambiant, des boules quièses. Enfin, vous vous débrouillez pour écrire. Les papous dans la tête, à suivre le petit rimailleur illustré. Il s'agit de revenir à deux mots fondamentaux et nous sommes à l'ENS, donc un des mots va vous concerner de très près. Il s'agit du mot école. Comment définir l'école d'une façon peut-être un peu subjective, parce que c'est le rédacteur qui fait sa définition. Comment définir école sous forme de poème? Et c'est à Patrice Caumont qu'est confiée la mission. Comment ça se présente, Patrice?
J'ai fait un travail un peu scolaire.
Oui, mais c'est bien.
Oui, j'ai imité la légende de la nonne de Victor Hugo.
Alors, ce poème sur l'école.
Il est des écoles à Grenade, il en est à Séville aussi, où à la première incartade, on prend la porte et sans merci. Il en est où l'on se prélasse, sans jamais être bachelier. Enfant, voici les keufs qui passent, cachez vos joints sous le tablier. Jetez aux orties les dicots, s'enlève du poids au cartable. Quand sonne la rentrée illico, tu mets sur vibreur ton portable. Dieu que c'est long un jour d'école, salle d'attente en tablier. Enfant, voici les heures de colle, copiez vos verbes irréguliers. Quand l'école te prend sous son aile, c'est pour 15 ans et sans sursis. T'en sors majeur de la maternelle, bien orienté mais sans acquis. Tu restes assis bien à ta place, même en chimie, là c'est casse-pied. Enfant, voici le prof qui passe, vos antisèches, faut les plier. Pour obéir à une ogresse qui te file des baffes et des zéros et lui dire « Merci maîtresse, faut être un peu sadomaso. » Reste au fond, en apnée ça passe, t'attends la récré pour crier. Enfant, voici la fin des classes, jeter cahiers et encrier. Pour faire l'école buissonnière, manque de buissons, pas de volontaires. Sans prévert, on traîne à l'hyper, loin du ramassage scolaire. Au rattrapage, on boit la tasse. Au premier stage, on est trié. Enfant, voici le bus qui passe. Si vous le ratez, c'est plié. À rude école, on coupe les ailes. Pour entrer aux grandes, il y a concours. Partout ailleurs, on fait du zèle quand c'est vers la sortie qu'on court. L'école de la rue te tabasse, celle de la vie te fait plier. Enfant, il n'y a que les matheux qui passent, fermez vos trousses d'écoliers. Le dialogue, c'est pas du racket, sans échanger, tu restes en gare. La converse n'est pas qu'une basket, sans Rimbaud, tu finis ringard. C'est pas la classe, c'est la ramasse, de secours, il n'y a plus d'escalier. Ados, voici vos chances qui passent, les smartphones, faut les oublier. Aragon se paie notre pomme, c'est l'école l'avenir de l'homme. Même si le programme sent bien l'automne, latin s'efface d'un coup de gomme, on fera du Goethe à goutte en somme. Les gaffiots, faut les autopsier. Enfant, il n'y aura plus d'erratum, à vos tablettes, collez copier. La voix du maître était boussole, et ses leçons des tatouages. Internet, c'est l'auto-école, t'es seul comme une nouille dans le potage. Il est des écoles à Grenade, il en est à Séville aussi, où à la première incartade, on prend la porte et sans merci, il en est où l'on se prélasse sans jamais être bachelier. Enfant, voici les keufs qui passent, cachez vos joints sous le tablier. Enfant, voici les keufs qui passent, cachez vos joints sous le tablier.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Lucas Fournier ?
J'ai une citation de Jean-Claude Godin, extraite de Didascalie, conversation avec Edmond Charleroux sur la Méditerranée. Ouais. Pas besoin de sortir d'une grande école parisienne pour entrer par la grande porte dans l'histoire politique phocéenne.
Le deuxième mot en situation. Oui, Patrice, comment quelque chose.
J'ai une autre citation de Brassens.
Ah oui, allez-y.
Que je dédie à la ministre de l'Éducation nationale.
Oui.
Sans le latin, l'école nous emmerde. Sans le latin, l'école nous emmerde.
Deuxième mot au programme, et il est en situation puisque nous sommes à Lyon, c'est le mot bouchon. Bouchon que j'ai confié à Patrick Beignet. Comment l'avez-vous attrapé, le bouchon ?
Et comme j'ai pu, Françoise, j'en ai tiré deux sonnets.
Oui.
Le début est une approche un peu marxiste. Je sais que vous aimez ça.
J'adore. Hein,
donc c'est
oui,
sûr.
Oui.
Je prends en compte la condition, les conditions de production. Avez-vous vu dans Barcelone ou bien dans Liège les ateliers profonds où naissent les bouchons ? Dans la pénombre, on entend grogner des cochons, tandis que les bouchons s'entassent sur les sièges. Ça, c'était la phase marxiste.
Okay.
Qui parle de bouchons pense d'abord au liège, mais c'est paresseux, car souvent les bouchons sont d'autres matériaux. Le marquis d'Argenson fermait ses flacons avec du tuf d'Ariège. Et puis, qui ne connaît le bouchon de cristal ? Il a donné son titre à un roman d'Arsène Lupin qui se passe sur les bords de la Seine. Des bouchons, vous en trouvez aussi en métal, en plastique ou en bois, tantôt d'un noir d'ébène et tantôt de couleur d'une queue de sirène. Puis, n'oublions pas le bouchon de cérumen, sécrétion de l'oreille qui peut rendre sourd. Le cérumen abrutit et vous rend balourd. Dans le misanthrope, tu t'en plains, c'est l'hymen. Mais, puisque je suis à Lyon, voilà qui me mène à citer le bouchon et ses plats gras et lourds. On raconte que le fameux Anish Kapoor aime mieux les crêperies du pays Bigouden. Sur la route du retour, les nerfs en pelote, le conducteur est pris d'un ennui sans pareil dans le bouchon, file sans fin sous le soleil. Comme on préférerait dormir dans une grotte, pourquoi est-on parti ? Ô couchant peuplé d'or, dans le bouchon, 8 jours plus tard, on est encore.
Oh. Très beau, et il n'y avait pas de gras, ça c'est vrai. Une citation, vraie, fausse, dit le conseil, sur le bouchon.
Une vraie, vraie citation d'Antoine Blondin.
Oui.
Le bouchon est à la bouteille, ce que le point final est à la phrase, indispensable, sauf quand la bouteille est vide.
Et vous, Patrice Delbourg ?
Alors là, j'ai trouvé, cher Lyonnais, dans un livre d'un de vos compatriotes, Antoine de Saint-Exupéry, page 24 de Vol de nuit, « Nous avons eu 2 heures de bouchon sur l'autoroute en revenant de l'aéroport.
» C'est le moment de retrouver Odile Conseil et Patrice Delbourg. Avez-vous fini ? Mais oui. Ça s'est bien passé ?
Ça s'est passé.
Ça s'est passé. Bon, parce que vous leur aviez donné des mots quand même qui étaient très exigeants.
Oui, mais enfin, ils étaient au calme, bien.
Ils étaient au calme, il n'y avait pas de bruit.
C'est facile.
Vous pouvez se concentrer.
Non, vous auriez pu rire moins fort quand même.
Vous avez l'air très content en tout cas. Alors, on va réécouter les 10 mots que vous avez imposé à Odile Conseil, à Patrice Delbourg, et vous allez nous lire vos histoires et vous soulignerez à leur passage les mots imposés par ce bruit de grenouille métallique. Comme ça, vous voulez bien leur passer la grenouille. Qui veut commencer ? Peut-être Odile nous redit les mots.
Les 10 mots sont ornithorynque, cornegidouille, circonvolution, didgeridoo, latanier, kleptomane, jartel, le poète Laval, Hippocrate et Asimov.
Oui. Alors, il y avait peut-être un mot qui vous a gêné.
Non. 10.
Soyez honnête, Odile.
Non, un peu plus qu'un, mais...
Alors, lesquels ? Mais non, mais parce qu'on saluera leur passage d'une façon plus émue.
J'étais pas très à l'aise avec Asimov, pour ma part.
Oui.
Il y avait cornegidouille. Alors bon,
vous avez slalomé.
Comme ça, quoi.
Ouais. Et lesquels vous ont particulièrement plu ?
Ah, mais l'ornithorynque et la jartelle.
Alors, ça porte un titre. Rappelez-nous la consigne d'abord. Ce que je vous ai imposé, c'était quoi ?
En plus des 10 mots imposés, le style imposé était défilé de mode pour la Fashion Week.
Bon, c'est facile. Vous y allez tout le temps, vous êtes invité.
Oui, bien sûr.
C'est un compte-rendu habituel pour vous. Il y a un titre ?
Oui, comme un vol de jartel. Donc je suis un commentateur et je commente le défilé de la Fashion Week. Bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs, merci d'être nombreux à l'écoute de votre TSF pour découvrir avec moi en direct du Poète Laval le défilé de la maison Gucciore comme... Non, cher Léon Mitrone, je n'ai pas dit goût de chiotte, mais Gucciore, Léon. Oui, c'est le moment, chers auditeurs, de vous révéler que Léon Mitrone est à mes côtés et qu'il ajoutera son grain de fantaisie et son immense érudition à mes commentaires en direct du Poète Laval, je vous le rappelle. Et c'est au son du didgeridoo que commence la présentation de la collection d'été de la maison Gucciore sous le titre Hippocrate. Et c'est un magnifique défilé de blouses blanches imaginé par Pierre-Jacques Asimov, dont Léon Mitrone me précise qu'il est l'arrière-petit-neveu de l'immense Isaac Asimov. Et donc, vous savez qu'il est le nouveau directeur de création de la maison Gucciore. Mais oui, Léon. Ah, Léon nous informe que ces blouses sont faites dans une matière 100% naturelle à base de feuilles de latanier. C'est vraiment formidable, la mode se rapproche toujours plus de la nature. Oui, Léon vous fait dire que son grand-oncle disait toujours « La nature, il n'y a que ça de vrai, corne-gidouille !» À présent, mesdames et messieurs, les mannequins, ah, vous les verriez, corne-gidouille, tournent autour des lataniers spécialement importés de Madagascar pour l'occasion. Les blouses blanches glissent sur des épaules ambrées. Non, caramel au reflet de bronze, me précise Léon. Merci Léon. Et dans leur... circonvolution, je vois, oui, c'est extraordinaire, mesdames et messieurs, des jartelles en peau d'ornithorynque. La nature, encore et toujours la nature, la Fashion Week est décidément très COP21 ici au Poète Laval. Mais que faites-vous, Léon ? Oh, mesdames et messieurs, Léon Mitrone vient de se précipiter sur la cuisse d'une jeune femme et lui arrache sa jartelle et s'enfuit à toutes jambes. Mesdames et messieurs, c'est en direct le scoop du défilé ici au Poète Laval. Léon Mitrone est kleptomane. C'est parfaitement inattendu. Et voilà qui, hélas, met fin au défilé. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter comme un vol de jartelle ici au Poète Laval.
Et ça a été écrit sous vos yeux, c'est pas mal hein, quand même. Donc on était dans les années 50-60 avec Odile Conseil. Et c'est à vous, Patrice Delbourg. Même question qu'Odile Conseil, les mots qui dérangent.
Latanier m'a gêné un peu.
Oui.
Mais Hippocrate m'a remis en selle. Et Asimov, j'étais bien avec Asimov.
Et alors vous aviez tiré le style...
Alors moi j'ai tiré le style du gars qui va se remettre en forme dans une cure thermale à flanc de coteaux, comme ça, pour essayer de perdre un petit peu ses capitons.
Oui, c'était dans une ville d'eau.
C'était dans une ville d'eau, n'y voyez vraiment aucune aventure personnelle surtout.
Non. Il y a un titre...
Oui, Mon Quintal dans le Cantal. Ayant dépassé le Quintal, je décidai de me rendre dans le Cantal, histoire de perdre mes capitons, mes gibbosités et autres protubérances squameuses que commençaient à me reprocher mes proches. Il n'était que temps, corne-gidouille. Je finissais par ne plus voir l'empeigne de mes chaussures, mes mocassins à glands. Les bébés dans leurs poussettes me jetaient des pierres. Et les vieux... sur leur déambulateur, criaient des invectives sur mon passage. « Gros patapouf, t'es du genre fil de fer, mais en rouleau !» Je pas.
Oh, c'est très méchant, ça.
Ils sont méchants, les vieux. Hein.
Ah ouais.
C'est des sales types, les vieux, je trouve. Je passais outre les quolibets de tous ces ornithorynques et grottants et me dis que le dodu d'une coëne réchauffe toujours une âme amène. Je pris donc la direction d'un petit village thermal baptisé le Poète Laval, à l'ombre de la chaîne des volcans d'Auvergne, une petite bourgade où Georges Bataille avait naguère esquissé ses premiers récits érotiques. pour prendre contenance dans mon compartiment de chemin de fer devant une haie de voyageurs moqueurs qui daubait mon abdomen proéminent et le sein doux qui ruisselait le long de mes bajoux en épaisse moraine suifeuse, je saisis un roman de science-fiction du maître Asimov dans mon havresac et assurais mes contempteurs de mon plus profond mépris. Je me moquais de cette mer de sarcasme. Moi, j'allais vers le paradis d'Hippocrate, la clinique du souffle, l'Eldorado de l'embonpoint bientôt inexistant. Et je n'avais que faire des pantomimes cyniques de tous ces voyageurs jaloux de mes rondeurs charnelles et conviviales. Je sentais qu'une forme de complexe d'adipeux commençait à naître dans le compartiment de chemin de fer. Quelques usagers tentèrent même de me déstabiliser avec quelques assauts de sensualité débridée à mon endroit, et même à mon envers d'ailleurs. Une jeune lorette dévoila une cuisse cylindrique et ambrée, ceinte d'une jartelle noire, pour mettre à l'épreuve la libido du gros. Peine perdue, j'ai horreur de la lingerie fine. Seuls les sauvageons aux beautés naturelles peuvent chavirer mes sens. La même Lolita se mit à jouer du didgeridoo de manière lascive pour esquisser sous mon tergal une émotion contenue. Bernic, Macache, Bono Bézef. Le gros se rendait au poète Laval pour sa remise en forme annuelle et aucune danse du ventre ni circonvolution aguicheuse n'aurait pu avoir raison de son plan minceur. Au premier latanier du puits de Sancy. Eh oui, la végétation est parfois étrange. Le train ralentit, je me permis de descendre du marchepied en marche sur le remblai pour montrer à tous ces voyageurs railleurs et propres à médire du seigneur obèse que j'en gardais sous le pied. Je commençais à trottiner sur le gravillon du ballast, détachais mon pantalon, fis apparaître un magnifique short orange, je fis quelques gestes de détente musculaire, gratifiais mon wagon d'affreux bléchards, d'un superbe bras d'honneur. L'air des cimes me faisait décidément du bien, déjà du bien. L'eau de source remplaçait dans mes veines le mauvais tanin des incs interlopes. L'air frais irradiait mes alvéoles. Je renaissais, je quittais la défroque du vieux poussard pour enfiler les habits du séraphin gracile. En un instant, j'étais devenu l'espace d'un raidillon, le kleptomane d'une forme et d'une santé retrouvées.
Bien joué tous les deux. Bravo. Dernière séquence maintenant de cet enregistrement des papous dans la tête à l'école normale sup de Lyon. On va jouer à expert contre faussaire et on jouera avec vous aussi. Vous devrez prendre position. Alors voilà comment ça s'est passé. On s'est réunis il y a quelques jours chez Lucas Fournier qui est très hospitalier. Il nous avait invités, Patrick Beignet, Odile Conseil, Patrice Caumont et moi, pour mettre en place ce jeu. Patrick Beignet, c'est le maître du jeu. C'est lui qui a choisi une œuvre sûrement importante d'un auteur très connu, un auteur qui a un style qu'on peut s'amuser à imiter, à défaut de connaître par cœur l'œuvre dont il sera question. Donc Patrick Beignet a expliqué un petit peu de quoi il s'agissait. Il a remis en tête le début et la fin de l'œuvre. Et ensuite, on a demandé à Odile Conseil, à Patrice Caumont, à Lucas Fournier, d'écrire le début et la fin de cette œuvre. Comme ils ne la connaissaient absolument pas, ils ont écrit des pastiches. Je les ai retapés et ils vont être distribués pour lecture de façon anonyme. Maintenant, on retrouve Serge Joncourt et Patrice Delbourg. Patrice, vous êtes là ? Je ne vous vois pas.
Je suis là.
Ils sont experts dans ce jeu. Ils devront dire qui a écrit quoi et retrouver l'auteur en jeu. Maintenant, on écoute Patrick Beignet nous présenter l'œuvre en question.
J'ai choisi un livre de Chateaubriand, c'est le Congrès de Vérone.
Ouais, vous connaissez, vous ?
Vérone, si.
C'est un volume.
Connaissez la pizzeria.
C'est un volume qui fait 900 pages dans la récente réédition qui a été faite,
oui,
et qui est la première depuis 1922. C'est vraiment un livre qui a sombré dans l'enfer des bibliothèques, mais pas pour des raisons érotiques qui suscitent généralement un tel mouvement.
Ouais.
C'est un livre assez bizarre, qui est une sorte de mélange, de montage, on dirait aujourd'hui que c'est du coupé-collé,
oui,
fait par Chateaubriand avec toutes sortes d'archives diplomatiques, des lettres, autour du congrès de Vérone auquel il a assisté en 1822. Et pas de chance pour lui et cet énorme volume, le congrès de Vérone n'est pas resté dans nos mémoires comme le congrès de Vienne, par exemple, quelques années plus tôt. Et il y a donc, au milieu de tout ce magma de documents, il y a quelques pages extraordinaires de littérature, mais c'est même pas nécessaire de lire le congrès de Vérone pour ça, parce que ces pages, Chateaubriand les a reprises dans les mémoires d'Outre-Tombe. Et c'est plus simple de les relire dans cette série de livres que tout le monde connaît, ou du moins dont tout le monde a entendu parler, peut-être même Lucas Fournier.
Le quoi? Les mémoires de qui?
Alors, de quoi s'agit-il dans ce congrès de Vérone? Dans cette Europe post-napoléonienne, donc on est en 1822, un an après la mort de Napoléon, l'Europe réorganisée par le congrès de Vienne, il y a, disons, des mouvements divers, particulièrement en Espagne, où le roi Ferdinand VII, qui est un Bourbon particulièrement réactionnaire, suscite une série de mouvements dans le peuple, de révoltes tendant à la démocratie. Et donc les grandes puissances ont décidé de remettre de l'ordre en Espagne. Et fin 1822, elles se retrouvent à Vérone pour chercher la meilleure façon d'en venir à bout. Delbourg est en train de s'endormir.
Et non, Serge Joncourt est absolument atterré. Il prend des notes comme un fou, mais je crois qu'il ne comprend
1822,
rien.
Hein, quand même. Oui, 1822. Oui. Et je passe rapidement. Le congrès se termine.
Ça fait 900 pages. Hein.
Oui.
Donc on en a pour la soirée.
Le congrès se termine avec un accord secret qui autorise la France à faire une intervention militaire en Espagne. Évidemment, les Autrichiens et les Anglais hésitent à laisser les Français recommencer des guerres, mais enfin, on trouve que c'est la solution la plus simple. Qu'est-ce que Chateaubriand a à voir là-dedans? Eh bien, c'est qu'on a envoyé à Vérone pour ce congrès un trio d'ambassadeurs, et Chateaubriand était ambassadeur à Londres. Et il a si bien réussi sa mission au congrès de Vérone qu'au retour, il est devenu ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, et qu'il a été chargé lui-même d'organiser cette guerre en Espagne. 100 000 soldats français sont donc partis en Espagne sans beaucoup de succès, mais je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, c'est dans tous les livres.
On situe un peu le début et la fin, ce qu'ont écrit nos camarades pasticheurs.
Oui, je préciserai d'abord que le style, c'est cet inimitable mélange de Chateaubriand de la pompe, de la grandiloquence et de l'insolence, hein, ce jeu entre les deux. Alors, au début, Chateaubriand rappelle la situation dans laquelle se trouvent les ambassadeurs et il prend une sorte de précaution oratoire. Il n'hésite pas à le faire dans un style grandiloquent, j'ai déjà utilisé le mot, et éventuellement à recourir à un pluriel de majesté, un nous de majesté. Oui. La fin, 900 pages plus loin, ou presque, le congrès est fini et il retrouve ce qui est sa vocation première, qui n'est pas vraiment la diplomatie, malgré tous ses efforts. Voilà ce que je peux dire.
Très bien. Bon, vous n'avez pas de questions à poser, Serge Joncourt.
Serge,
Patrice
sûrement
Delbourg,
pas, il a l'air abattu.
Il est très perturbé, Serge. Pas de questions. D'ailleurs, les pasticheurs n'en ont pas posé.
Ils vous ont tort,
écouté
à mon avis,
il y a quelques jours et tout de suite, ils ont écrit. Et puis, je me suis emparée de leurs textes, je les ai tapés. Et ils sont là, et bien sûr, il y a trois pastiches et le vrai texte de Chateaubriand. Donc, Serge Joncourt, je vous conseille d'être attentif. Patrice Delbourg aussi. On va vous faire la lecture. Oui, Patrice?
Non, je suis tendu à l'extrême.
Enfin.
Oh, mon
vous
Dieu.
Savez, il faut en subir dans ces émissions.
Le Tergal souffre. Finissons-en vite.
C'est de la popeline pour ma part.
Allez, 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 on est dans Chateaubriand, quoi. Enfin. Donc, je distribue au hasard un texte pour Lucas Fournier, un pour Odile Conseil, un pour Patrice Comont, et je ferai la quatrième lectrice. Première lecture par Lucas Fournier. Ce texte est-il de Chateaubriand, de Lucas Fournier, de Odile Conseil ou de Patrice Comont? À vous de dire, Sergent Cour et Patrice Delbourg.
De ma jeunesse à cette année 1822, j'ai traversé l'Europe et ses tempêtes, l'Amérique et l'Orient et subi un empire. Non, je l'ai mal dit, je le redis. De ma jeunesse à cette année 1822, j'ai traversé l'Europe et ses tempêtes, l'Amérique et l'Orient et subi un empire. Si nous avons parfois plié sous l'ouragan de l'histoire, Dieu nous a accordé sa grâce. Je parlerai ici au nom de mon souverain, mais avec ma voix propre et avec cette franchise qui, je l'espère, ne vous brusquera point, c'est celle que César concéda aux Gaules.
C'est intéressant, c'est le début, il y a un monsieur qui siffle. C'est pas mal, non?
C'est endormi, peut-être.
Voici la fin. Il était l'heure de quitter Vérone. Le plan de l'édifice était tracé au plus près de mon inspiration, avec bonheur, dirais-je, en ce délicat concordat. Je pense avoir tenu mon rôle sans faillir, en honnête semeur d'un futur fertile. Comme Cincinnatus, je dois retourner à ma charrue, écrire pour devenir moi-même.
Très joli texte, hein, très très beau. Alors, est-ce que c'est du Chateaubriand, Sergent Cour, d'abord?
Ça sent le bon élève, ça sent le bon élève, oui. Tout y est. Alors, dans l'introduction, l'Europe, l'Amérique, l'Orient, il a tout fait. Enfin, je veux dire, c'est quasiment une sorte de biographie que nous livre Lucas Fournier. C'est d'ailleurs très probablement un texte de Lucas Fournier. Je le reconnais, je connais sa fascination, pour tout dire, un peu cachée, il faut bien le reconnaître, pour Stéphanie de Monaco. Bon, enfin, vous avez reconnu les paroles. Sous l'ouragan de l'histoire, il ne peut pas s'empêcher de faire un texte un peu
comme un
emporté sans caser le mot ouragan. Et il la chante tout le temps. Pour tout vous dire, j'ai la chambre à côté de la sienne. Et toute la c'est comme un ouragan. Oui, non. En même temps, c'est touchant, hein, parce que c'est appliqué.
Ah, puis il l'a dit avec une certaine distance,
oui,
comme si
oui.
C'était pas le sien, mais on ne sait pas si c'est le sien.
Si, avec, moi je
vous,
le sais.
À part
je
vous.
Ah ben, je
Patrice Delbourg, votre opinion?
Il l'a dit même avec beaucoup de rouerie, parce qu'il a faim de le commencer à côté en disant non, je vais le reprendre, je l'ai mal dit. Enfin,
oui. Ah, oui.
C'est quand même d'une tartufferie absolument invraisemblable.
Ça, c'est pas, j'avais pas pensé.
Oui, c'est vrai. Bon, alors évidemment, ça n'est pas Chateaubriand, parce que bon, le délicat concordat, le futur fertile, c'est le boulevard vraiment des clichés. Et puis alors à la fin quand même, je retourne à ma charrue. Chateaubriand qui était un gandin citadin, je vois pas Chateaubriand pousser la rère. Donc non, je crains qu'il s'agisse d'un texte peut-être d'Odile. Mais nous verrons.
Oh, quel mufle.
Pourquoi craignez-vous?
Bah, avec la charrue. C'est l'éternel, le soc qui est l'éternel féminin, en quelque sorte. Nous y reviendrons.
Odile a murmuré, est-ce un compliment?
Non, mais en tout cas, ça n'est pas Chateaubriand, ça c'est non. Sûr.
Bon, un deuxième texte, lu par Odile Conseil. De qui est-il?
En ce mois de mars 1822... Londres laissée derrière nous se débattait dans le fog et la grisaille. Nous arrivions à Vérone, soumise déjà au charme du printemps. Mais l'heure n'était pas aux contemplations. La France nous envoyait ici en ambassade pour voler au secours d'un monarque en péril. La fin? Sauver le bon roi Ferdinand. Nous avions accompli notre mission avec le brio et la maîtrise qui sied à l'ambassadeur d'une grande nation. De nouvelles et plus nobles tâches nous attendaient, qui avait nom littérature et poésie.
Ah!
Alors?
Alors, Patrice Delbourg.
Alors là, il y a quelqu'un qui s'est trompé d'auteur de consigne. On lui a dit Chateaubriand, et c'est le souffle hugolien. Vous voyez, la musique, le souffle, en plus il nous refile les contemplations. Bon, pour montrer qu'on a bien compris. Donc là, il y a quand même une erreur de casting notoire. C'est donc Chateaubriand, je le répète au faussaire, et pas Hugo. Donc il s'agit d'un texte de Patrice Comont qui sait très très bien contrefaire Monsieur Hugo.
Ah, mais vous affirmez comme ça dès le premier tour.
Il faut se tromper avec assurance.
Quel courage.
Voire avec aplomb.
Sans même avoir entendu les autres textes. Sergent Cour, aussi courageux que Delbourg.
Écoutez, je ne saurais l'attribuer tout de suite. Encore une fois, c'est très appliqué. Les consignes y sont. Alors oui, des contemplations, c'est vrai que c'est toujours un peu gênant parce que ça connote. En même temps, c'est la même époque, on me dirait. Bon. Faisons cette concession. Non, je pense... Alors, il ne semble pas que ce soit Chateaubriand, ni Victor Hugo.
Non, il n'était pas chez Lucas l'autre soir. Oui, je suis désolée.
Il n'a pas pu venir. Oui.
Excusé.
En tout cas, Hugo n'était pas là. Oui.
Pour le reste, si vous voulez que je vous donne maintenant un nom...
Non, une première impression, un parfum. Ça sent qui?
Ça sent... Non, ça sent bon. Ça sent le parfum un peu capiteux.
Ça sent quel talent.
Je dirais le lyrisme, l'envolée poétique d'Odile, peut-être. Parce que chez Comon, ça serait un peu plus roboratif. Vous aviez mangé ce soir-là avant de faire, avant de faire l'exercice? Est-ce que vous avez mangé avant ou après
Non, après.
Après.
On a mangé après.
À jeun. Ah,
on a un personne n'a bu non plus.
Ah, ça, c'est dommage, ça m'aurait aidé que vous auriez pu le faire après. Parce que là, j'aurais débusqué le Comon à coup sûr. J'irai sur Odile Conseil, mais alors.
Bon, Odile, point d'interrogation. Et on se retrouve tout à l'heure. Une troisième lecture faite par Patrice Comon.
Le 3 juin 1822, nous nous trouvâmes par un décret du roi conviés à laisser les affaires anglaises, qui nous occupait alors pour rejoindre à Vérone les émissaires de l'Europe. L'Espagne appelait au secours et les vieilles diplomaties, recrues de guerre et de désordre, n'y savaient pas répondre.
Wow. Ouais. Ça décolle là.
La fin.
Ah oui, ça décolle, je note.
Vérone effaçait ce que Vienne avait corrompu. La France, enfin, par notre voix, retrouvait le timbre et l'éclat d'une nation qui sait être grande quand les malheurs du temps lui font toucher les nécessités de l'ordre. Je quittai le chevet d'un pays rédempté. Puis, je me mis à écrire le récit de tout cela avec cette ardeur qu'on a dans la splendeur inaugurale des commencements.
Oh, ça envoie.
Là, c'est gaullien.
Soit c'est les mémoires de guerre, oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Soit c'est De Gaulle, soit c'est Chateaubriand. Mais enfin, ça, c'est pas... C'est pas Lucas Fournier. Non, pardon. Non, comment vous dire? Il y a un moment, un texte sans le vécu. On n'y peut rien. Sans même se poser la question narratologique, diégèse, mimésis, on y est. Quoi. Il nous a emportés. Et pour tout vous dire, ce texte m'a plu.
Tant mieux.
La lecture de Comon était assez correcte, il faut le dire.
Oui.
Pas surjoué, signe que ce n'était pas son texte, sans quoi il... Il aurait un peu appuyé, voyez, il aurait aidé. Une béquille, il n'a pas besoin. Ça vient tout seul, ça coule comme c'est du gamet.
C'est vrai qu'il ne l'a pas saboté, le texte, donc ça ne doit pas être lui.
Ni celui d'un autre.
Généralement, il respecte toujours ses propres textes.
Beaucoup de respect pour Chateaubriand.
Il a quand même un petit peu surjoué la deuxième partie, la chute, hein, avec une grandiloquence comme ça qui monte.
Elle est surjouante. Hein,
vers Colombey, les deux églises. On ne sait pas pourquoi, brusquement, le texte s'emporte un peu vers...
Parce qu'elle est sûre d'elle, hein, quand même. Je vous la redirai tout à l'heure.
Oui, aurez un deuxième tour. Ah, c'était rédempté.
Rédempté, ce que Vienne nous avait...
Mais le début, l'apéritif est assez, assez convaincant. Alors, je remarque que tous les textes, ils arrivent à placer quand même la date immédiatement après...
Évidemment, il leur a donné avant.
Il leur a donné, c'était dans la consigne. Ah, c'était dans la consigne.
Elle était dans la consigne.
Ça me paraît le plus proche peut-être de François René.
Bon,
pour l'instant.
Bon, je note château, point d'interrogation, peut-être. Alors, quatrième lecture, de qui est-ce? Ambassadeur à Londres en 1822, nous étions prêts à nous rendre à Vérone en qualité de représentant de la France. Mais avant d'entrer dans le détail de ce congrès, nous sommes obligés de jeter un coup d'œil en arrière. C'est le début. Nous quittâmes Vérone le 13, jetant un œil de regret sur l'Italie, mais nous consolant dans la pensée d'aller continuer nos mémoires à la pâle lumière du soleil qui avait éclairé les misères de notre jeunesse.
Alors là, la répétition...
Alors là, il y a un silence.
Ah oui, Non, parce que soit ils ont été très pressés, ils n'ont pas eu le temps, bon, pour... ils ont
Une demi-heure.
Ah, ben, ils ont un peu bâclé, parce que là, quand même, dès la première phrase, il y a un affaissement de la syntaxe et une pauvreté du lexique chez Chateaubriand qui étonne, ouais. Qui étonne quand même beaucoup. Bon, du genre j'esquive, hein, j'escamote, comme ça, c'est quand même un petit peu... Bon, c'est le choix pernicieux de Patrick Beignet qui a choisi un Chateaubriand un peu bancal, ce qui serait peut-être possible. Bon. Mm-hmm. Et bon, ce texte interroge.
Oui, Serge Joncourt, votre opinion?
Que vous dire, je suis un peu atteint par la formule, oui, pas très chanceuse, non. Quitter Vérone en jetant un œil de regret sur l'Italie. C'est... En même temps, si vous voulez, ça dénote au moins une chose, il sait que Vérone est en Italie. Donc... Attention, il a de la culture. Mais pour le reste, c'est un peu... Moi, je sens plus le faussaire qui est plutôt en train de lorgner la bouteille qui n'est pas encore ouverte que de jeter un œil de regret sur l'Italie, dont, à vrai dire, là, il n'a rien à faire. C'est un peu pathétique, hein, mais... Pardon, je sais qu'on va se fâcher avec du monde, mais...
Mais on se fâche toujours à ce jeu... On refait un tour, mais là, il faut vous décider à chaque lecture et je vous demanderai votre avis dans la salle. Hein, on est tous familiarisés avec Chateaubriand maintenant. Enfin, autant que Serge Joncourt et Patrice Delbourg, en tout cas. D'accord. Allez, lecture par Lucas Fournier.
De ma jeunesse à cette année 1822, j'ai traversé l'Europe et ses tempêtes, l'Amérique et l'Orient, et subi un empire. Si nous avons parfois plié sous l'ouragan de l'histoire, Dieu nous a accordé sa grâce. Je parlerai ici au nom de mon souverain avec ma voix propre et avec cette franchise qui, je l'espère, ne vous brusquera point. C'est celle que César concéda aux Gaules.
La fin.
Il était l'heure de quitter Vérone. Le plan de l'édifice était tracé au plus près de mon inspiration, avec bonheur, dirais-je, en ce délicat concordat. Je pense avoir tenu mon rôle sans faillir, en honnête semeur d'un futur fertile. Comme Cincinnatus, je dois retourner à ma charrue, écrire pour devenir moi-même.
Oui, c'est quand même beau. Moi, je vous trouve très, très dur avec ces textes. Non,
enfin, si vous voulez, Chateaubriand quitte pas Vérone en disant il était l'heure de quitter Vérone, comme s'il allait prendre son TGV. c'est consternant, ça. Par contre, Lucas Fournier prend beaucoup le train, je le sais, pour des raisons professionnelles.
Donc, c'était votre premier choix tout à l'heure. Lucas Fournier, vous maintenez l'option?
Oui, il y a un côté légitimiste en même temps, vous voyez, qui s'y est bien, Lucas Fournier. Il y a de l'ordre là-dedans, il y a du reste. Comment dire, essayons de nous rattraper. Il y a des valeurs. Dans ce texte, on sent l'ancien rugbyman, vous voyez.
Ça va, laisse tomber.
La charrue, la mêlée, enfin les charrues. C'est solide, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas Chateaubriand.
Alors, un Lucas Fournier, un pour vous, Patrice Delbourg.
C'est trop calorique, c'est trop riche. Il y a vraiment, il y a trop d'éléments. Et puis, alors, je ne vois pas Chateaubriand saluer César d'entrée, parce que bon, vous connaissez l'ego montgolfière de Chateaubriand. Il va pas en plus convier César et Napoléon. Non, je reste à mon premier choix, Odile. Odile Conseil.
Vous aviez parlé de la charrue d'Odile.
La charrue d'Odile.
C'est un peu mystérieux. Enfin, comme
le soc d'Odile. Elle a un très bon soc.
Le sac d'Odile.
Alors nous avons un Lucas Fournier, une Odile Conseil dans la salle. Qui vote pour ce texte pour Lucas Fournier? Non, levez pas, à part ça, levez la main, c'est pas du tout radiophonique. Ça s'entendra pas. Au secours. Criez oui. Ah, vous vous laissez pas influencer par Serge Joncourt? Non? Si?
Merci.
Ah oui, mais. Alors, qui vote pour Odile Conseil? Oui. Oh, il y en a encore plus, non? Hein? Et qui voterait pour Patrice Caumont?
Moi. Et pour Chateaubriand?
Ah, il y en a 3-4. Hein. Vous avez une bonne cote. Et pour Chateaubriand?
Oula.
Personne? Non. Alors, ça se partage quand même beaucoup entre Lucas Fournier et Odile Conseil, donc qui sont les choix de Serge Joncourt et de Patrice Delbourg. Lecture suivante, Odile Conseil.
En ce mois de mars 1822, Londres laissée derrière nous se débattait dans le fog et la grisaille. Nous arrivions à Vérone, soumise déjà au charme du printemps. Mais l'heure n'était pas aux contemplations, la France nous envoyait ici en ambassade pour voler au secours d'un monarque en péril.
Oui.
La fin. Sauver le bon roi Ferdinand. Nous avions accompli notre mission avec le brio et la maîtrise qui sied à l'ambassadeur d'une grande nation. De nouvelles et plus nobles tâches nous attendaient qui avaient nom, littérature et poésie.
Voilà, alors on a eu le retour des contemplations d'Hugo, effectivement, oui, dont vous aviez parlé au premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Joncourt ?
Oui, alors vous savez, il y a des sortes de comment dirais-je, des pulsions enfouies. On connaît peu le penchant monarchique de Odile.
Ah, elle le cache un peu.
Elle le cache, mais ouais, si vous voulez, par moments, elle ne peut s'empêcher. Remarquez, elle a écrit, il y a quoi ? Il y a six lignes, hein. Oui. Et il n'empêche que dans ces six lignes, il y a au moins deux fois voler au secours d'un monarque et un peu plus loin sauver le bon roi Ferdinand. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de, pour masquer un peu cette sorte de penchant, Odile prend parfois des airs un peu de revendication, un peu.
Oui, militante, quoi.
Militant, hein, oui. Ah, oui.
Non. Donc. Mais elle triche, c'est pas vrai, c'est ça.
Non, justement, là, ce texte la révèle, si vous voulez. Vous étiez sûrement tous les quatre dans la confidence. Dans une petite soupente à Paris, je vois très bien la scène, il faisait encore un peu froid, on se laisse aller. Effectivement, c'est tentant d'aller sauver le bon roi Ferdinand. Oui, je me mets à sa place.
Alors, ce texte est d'Odile Conseil.
Oui, ah oui, ah bah oui, ça c'est
d'accord,
sûr.
D'accord, Serge. Et pour vous, Patrice Delbourg ?
Oui, vous avez raison, Serge, on peut les imaginer, tous les quatre, légèrement alanguis sur des méridiennes, comme ça, en train de fumer de l'opium. Et je vois bien, par exemple, Patrice Caumont.
Avec Chateaubriand avec nous.
Patrice Caumont qui partage sa vie, il faut vous le dire, entre Londres, entre Albion et la France. Bon, avec ses accents hugoliens, mais aussi avec quelque chose qu'il trahit, c'est fog et grisaille. Le fog et la grisaille, jamais Chateaubriand ne peut écrire une chose pareille. C'est soit Jacques l'Éventreur, soit Dickens. Vous voyez un petit peu, nous sommes dans une époque victorienne. Donc je vois Patrice Caumont en robe de chambre, en cheviotte, écrire ce texte vers 11h30 du matin.
Non, c'était en fin d'après-midi.
C'était en fin d'après-midi. Alors, il était en survêtement. Mais en babouche, toujours.
Ouais. Bon. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux dans la salle ? Qui a l'impression que le texte lu par Odile Conseil est d'Odile Conseil ? Oui, pas beaucoup, hein ? Non. Oui ? Non, mais vous êtes... Vous êtes très concernés et vous affirmez les choses, vous êtes très peu nombreux, c'est ce que je veux dire. Qui a l'impression qu'il s'agit d'un texte de Patrice Caumont ?
Oui !
Vous me faites plaisir.
Sous l'influence de Patrice Delbourg ou pas ?
Oui !
Qui pense que c'est du Chateaubriand ? Ah quand même, hein ? Vous êtes combien là ? Oui, vous êtes trois.
Trois, oui.
C'est bien. Et puis, qui pense que c'est du Fournier ?
Oui.
Ah, quand même. Ça se répartit, mais mezzo-mezzo, hein. Oui. Troisième lecture, Patrice Caumont.
Le 3 juin 1822, nous nous trouvâmes, par un décret du roi, conviés à laisser les affaires anglaises qui nous occupaient alors pour rejoindre à Vérone les émissaires de l'Europe. L'Espagne appelait au secours et les vieilles diplomaties, recrue de guerre et de désordre, n'y savait pas répondre. Vérone effaçait ce que Vienne avait corrompu. La France, enfin, par notre voix, retrouvait le timbre et l'éclat d'une nation qui sait être grande quand les malheurs du temps lui font toucher les nécessités de l'ordre. Je quittais le chevet d'un pays rédenté.
Oh là, il est...
Puis je me mis à écrire le récit de tout cela avec cette ardeur qu'on a dans la splendeur inaugurale des commencements.
Oh, c'est trop beau, ça.
C'est moche.
Alors,
de se moquer
comme ça.
Alors,
vous avez dit... Pardon ?
C'est moche de se moquer d'un texte d'un copain comme ça, mais bon.
Mais non, tout le monde l'a applaudi. Et tout à l'heure, vous avez dit « ça décolle, ça ressemble à De Gaulle » ou « Chateaubriand ». Ça, c'est Serge qui a dit ça. Et vous avez parlé de Colombey les deux églises, Patrice Delbourg. Oui. Alors, c'est de qui ?
Eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui connaît les affaires,
oui,
qui est aux affaires même peut-être,
Je crois que c'est un texte de Lucas Fournier.
Ah oui?
Oui, parce que, bon, rien ne dépasse, la morgue est là, la grandiloquence, ça ronfle comme on entend nos élus ronfler toute la journée. C'est bien fait, mais ça n'est pas Chateaubriand. Chateaubriand, c'est le dernier, parce que il y a cette maladresse qui laisse entendre qu'en fait, le texte le plus maladroit est celui de l'écrivain sans doute le plus guindé.
D'accord. Alors, on va voir ça. Donc, vous êtes pour Lucas Fournier. Oui. Et vous, Serge Joncourt?
Oui, j'étais sur Chateaubriand, si vous voulez, parce que tout de même, je ne pense pas qu'un... le sceau de l'authenticité, hélas, où... Vous voyez, l'Espagne nous appelait au secours.
Oui.
C'est pas le roi, le gouvernement ou la TVE, c'est, l'Espagne.
C'est le pays, oui. C'est la nation.
Oui, absolument. C'est-à-dire que là, on est dans une disposition face au texte à écrire qui fait qu'on est, pour de vrai, mis en jeu. Et alors, malgré tout leur talent, je ne pense pas que, même si votre soirée était un peu protocolaire, on peut l'imaginer, vous n'étiez toutefois pas dans ces dispositions aussi souveraines, au point de se sentir investi du projet de sauver l'Europe, à moins que peut-être vous l'avez fait ce soir-là, et qu'on n'est pas encore complètement au courant des délibérations. C'est possible. Et pour moi, seul Chateaubriand peut se mettre dans la peau de... à ce point, dans la peau de Chateaubriand.
C'est bien, ça c'est argumenté. Oui. Qui vote dans la salle pour du Chateaubriand?
Oui.
Ah, il a été convaincant.
Une pétition, hein.
Qui vote pour du Lucas Fournier?
Oui, d'accord.
Bon.
Trois.
C'est pas grave d'être dans les minorités, vous savez. C'est très bien, la minorité.
Écoutez,
aussi.
Je vais vous dire, si ça n'est pas Chateaubriand,
oui,
et que c'est donc un faussaire,
oui,
je m'engage ad vitam aeternam à lui cirer les pompes, à lui regonfler la voiture, à lui changer la roue de secours. Enfin, je ferai ce qu'il veut parce que là, je suis à plat ventre. C'est magnifique.
Très bien. Dernier texte. Ambassadeur à Londres en 1822, nous étions prêts à nous rendre à Vérone en qualité de représentant de la France. Mais avant d'entrer dans le détail de ce congrès, nous sommes obligés de jeter un coup d'œil en arrière. Et la fin? Nous quittâmes Vérone le 13, jetant un œil de regret sur l'Italie, mais nous consolant dans la pensée d'aller continuer nos mémoires à la pâle lumière du soleil qui avait éclairé les misères de notre jeunesse. De qui est-ce? Serge Joncourt.
Oh, ben,
cela dit, vous n'avez plus beaucoup le choix.
Ben oui, c'est ça.
Vous avez attribué Lucas Odile Chateaubriand, il vous reste Patrice Caumont.
Oui, c'est ça, oui, ben oui, ben, vous voulez... Bon, en général, il est en forme, Patrice Caumont.
Hein, et alors, et là soir.
Ben écoutez, imaginez un peu l'enthousiasme. Ambassadeur à Londres, nous étions prêts à nous rendre à Vérone pour sauver la France. Non mais bon sang, il était en hypoglycémie. Ou c'est un Chateaubriand un peu cuit. Non, ça peut être Caumont en méforme.
D'accord. Comment avant d'avoir dîné?
Oui, oui, je comprends ça. Moi-même, en ce moment, je dois vous dire, je ne suis pas loin d'être dans cet état. Je n'ai pas très envie de sauver l'Europe.
Alors,
à Vérone.
Patrice Delbourg, à vous.
Ouais, on se demande si c'est Vérone ou la petite Vérone. Parce que là dans ce texte, alors peut-être la soirée était humide, il titubait, mais on leur dit pastiche de Chateaubriand, qui est quand même bon l'un de nos stylistes les plus hautains, et nous avons quand même deux répétitions, on a une fin de phrase bancale, on a quand même un texte qui tient pas, donc je pense que c'est du Chateaubriand, et c'est d'ailleurs celui qui me reste, donc c'est une rouerie de Patrick Beignet, il nous a refilé un regaton de château, un château un petit peu trop grillé, dirons-nous, et voilà. Donc, voilà, ça tombe bien, c'est le seul qui me restait.
On va voir avec la salle qui vote pour Chateaubriand. Oui.
Trois,
hein. Je note trois. Qui vote pour Patrice Caumont? Pas beaucoup non plus, parce que vous l'avez déjà attribué ailleurs. Hein. Ah, c'est difficile ce jeu, très difficile.
Je
ne résumerai pas qui en a le vrai Chateaubriand. Eh bien, c'est moi.
Ah, bancal.
c'est Chateaubriand qui a osé être un peu bancal.
Ah oui.
Parce que bon, il jouait pas, lui. Peut-être qu'il s'est pas trop relu parce qu'il a écrit 900 pages entre les deux. Vous nous expliquerez, Patrick Beignet. Vous voulez que je vous le relise ?
Oh non.
Non, quand même. La fin, nous quittâmes Vérone le 13, jetant un œil de regret sur l'Italie, mais nous consolant dans la pensée d'aller continuer nos mémoires à la pâle lumière du soleil qui avait éclairé les misères de notre jeunesse. Qu'est-ce que vous trouvez à redire à ça ?
Ben que c'est ni pompeux, ni insolent. Donc le brief était trompeur.
Oh, ah, oh, Patrick Beignet.
Mauvais perdant.
Oui, oui.
Alors si, peut-être.
Ben, il joue pas.
Quand même, le début, ambassadeur à Londres en 1822, nous étions prêts à nous rendre à Vérone en qualité de représentant de la France. Hein. Mais avant d'entrer dans le détail de ce congrès, nous sommes obligés de jeter un coup d'œil en arrière. Ça, je trouve que c'est un peu... Non, qu'est-ce que vous pensez, Patrick?
Mais j'ai dit qu'il y avait une précaution oratoire c'est au vrai. Début.
Oui.
Ah, oui.
Donc le coup d'œil en arrière.
Et je maintiens que c'est insolent et pompeux.
Bon, très bien. Eh ben, c'est votre point de vue. Vous n'avez qu'à vous taire, Patrice Caumont. Alors, on reprend les lectures dans l'ordre ?
Oh bah oui, si vous voulez.
Lucas Fournier, allez.
De ma jeunesse à cette année 1822, j'ai traversé l'Europe et ses tempêtes, l'Amérique et l'Orient, et subi un empire. Si nous avons parfois plié sous l'ouragan de l'histoire, Dieu nous a accordé sa grâce. Je parlerai ici au nom de mon souverain, mais avec ma voix propre, et avec cette franchise qui, je l'espère, ne vous brusquera point, c'est celle que César concéda aux Gaules. Et la fin ? Il était l'heure de quitter Vérone. Le plan de l'édifice était tracé au plus près de mon inspiration, avec bonheur, dirais-je, en ce délicat concordat. Je pense avoir tenu mon rôle sans faillir, en honnête semeur d'un futur fertile. Comme Cincinnatus, je dois retourner à ma charrue, écrire pour devenir moi-même.
Alors, ce texte a été attribué par Patrice Delbourg à Odile Conseil, par Serge Joncourt à Lucas Fournier, par une partie de la salle à Odile Conseil et à Lucas Fournier. Vous étiez assez en faveur des experts. Ce texte est de qui, Lucas Fournier ?
C'est raté pour tous les deux, c'est de Patrice Caumont.
Ah, il y avait quelques personnes. Oui, vous l'aviez dit. Et c'est un joli texte, non ?
Ah oui, c'est très beau.
Bon, alors, ça fait un zéro chacun. Hein. C'est mal parti.
Très mal parti. Il a trouvé Chateaubriand.
Oui, il a trouvé l'essentiel.
Hein. Odile, vous avez lu un texte. On peut le réécouter, si vous le voulez bien.
En ce mois de mars 1822, Londres, laissée derrière nous, se débattait dans le fog et la grisaille. Nous arrivions à Vérone, soumise déjà au charme du printemps. Mais l'heure n'était pas aux contemplations. La France nous envoyait ici en ambassade pour voler au secours d'un monarque en péril. La fin, sauver le bon roi Ferdinand. Nous avions accompli notre mission avec le brio et la maîtrise qui sied à l'ambassadeur d'une grande nation. De nouvelles et plus nobles tâches nous attendaient, qui avaient nom, littérature et poésie.
Alors, ce texte a été attribué par Serge Joncourt à Odile Conseil, par Patrice Delbourg à Patrice Caumont. Bon, on sait maintenant que ça ne peut plus être du Caumont. Est-ce que c'est du Conseil ?
Serge Joncourt m'a percé à jour, oui.
Ah ! Et il marque un petit point, Serge.
Je confonds toujours Chateaubriand et Odile Conseil. C'est... La lettre C, c'est...
Ah oui, c'est piégeux. Patrice Caumont, vous avez lu un texte, vous l'avez très joliment lu, ce texte. On peut le réécouter ?
Le 3 juin 1822.
Évidemment, ça change tout. Si vous le lisez avec l'accent de la Lamalou-les-Bains...
Nous nous trouvâmes hein, par un décret du roi convié à laisser les affaires anglaises qui nous occupaient et, alors pour rejoindre à Vérone, les émissaires de l'Europe. L'Espagne, elle a appelé au secours. Et les diplomaties, recrues de guerre et de désordre, et ils ne savaient pas y répondre. Femme de con. Bon, c'est Lucas Fournier, ça se voyait quand même.
Eh bien, ça se voyait, Patrice Delbourg l'a dit. Ça fait un point pour Patrice Delbourg.
Deux.
Non, mais un deuxième.
Oui, mais pour la fin aussi, dire. Ça compte. La fin aussi était de Lucas.
Ah, bah oui. Et ceux qui, dans la salle, l'avaient attribué à Lucas, il y en avait quand même. Hein.
Trois.
Oui, pas beaucoup. Hein. Maintenant, tout le monde pourrait dire oui, mais non, vous êtes très honnête. Très honnête. Eh bien, voilà, il faut faire les comptes. Serge Joncourt a identifié Odile Conseil.
Je ne suis pas peu fier, s'il vous plaît.
C'est tout, mais c'est bien. Patrice Delbourg a il a le très très gros point parce qu'il a identifié Chateaubriand.
Oui, qui est quand même un écrivain un petit peu surjoué.
Ah bon ? Non, mais vous avez été très fort sur Chateaubriand et sur Lucas Faure.
Ben, sur les deux ambassadeurs tribuns.
Oui.
Je suis là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu ma spécialité.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice, Patrick Beignet, des experts, par exemple ?
Les experts ont été subtils,
ouais.
Plus que je n'aurais imaginé.
Ah ouais.
Et particulièrement l'analyse de Patrice Delbourg était très fine, elle l'a conduit
à la vérité.
À la vérité, voilà.
Ouais. Et les faussaires ?
Ben, les faussaires ont déployé tout l'arsenal des pastiches Chateaubriand.
Oui.
Moi, j'ai trouvé que le Saint-Cinatus était merveilleusement convoqué.
Oui, c'est le Saint-Cinatus de Patrice Caumont.
Oui, oui.
Et tout c'est... le monde lui a fait énormément de peine en ne prenant pas son texte pour du Chateaubriand, je précise. C'est... Vous vous remettrez, Patrice Caumont, vous jouerez avec nous à nouveau ?
C'est pas sûr.
En tout cas, ceux qui ont identifié Lucas Fournier, Chateaubriand, dit le conseil, Patrice Caumont pour certains, bravo, bravo à tout le monde. Les Papous en public à l'ENS de Lyon, fin de la deuxième partie avec les experts faussaires, notre finale ce soir-là. Une émission proposée par Françoise Tressard, équipe technique et de réalisation Pierre Mine, Anne de Pelchin, Étienne Leroy, Gilles Manet, chargé de production Roland Dandalex. Avec les papous du jour, Patrick Beignet, Lucas Fournier, Odile Conseil, Patrice Caumont, Patrice Delbourg, Gabriel Godard et Serge Joncourt. Un grand merci aux étudiants de Normale Sup Lyon pour leur invitation, leur accueil, leur bienveillance. C'était un grand plaisir d'être avec eux ce soir-là et avec vous. Une récréation papou à classer avec les autres dans les jolis souvenirs. Et comme la soirée s'est prolongée pendant près de 3 heures, on se retrouve dimanche prochain pour un numéro mi-privé, mi-public. Avec côté public, une page de Publipapoucité spéciale auteur américain et le grand air de l'air de repos de Couet. Une enquête de Serge Joncourt et la chanson par Lucas Fournier. Les photos de la soirée sont à la page des Papous et sur notre page Facebook où vous pouvez échanger aussi vos commentaires et bien sûr vous podcaster sur franceculture.fr. Au revoir, passez un très bel après-midi en bonne compagnie sur France Culture.
Quoi ?